Bonjour Mamadou.
Bonjour Ernesto.
En fait, comme tu le sais, nous sommes là aujourd'hui pour échanger sur notre expérience autour du projet Hype 13 et pour partager cette expérience avec nos collègues et même au-delà du consortium du projet Hype 13. Je vais te proposer d'abord de nous présenter mutuellement. Donc, je vais commencer. Donc, Ernesto Exposito. Je suis professeur en informatique à l'Université de Pau et des pays de l'Adour. À toi, Mamadou.
Je suis Momodou Gueye et je suis docteur en informatique à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour.
Et je voudrais donc te demander, Mamadou, parce que c'était exactement le contexte de ta thèse, si tu pouvais nous parler un petit peu finalement des challenges de l'éducation 4.0.
Tout à fait. Dans le cadre de ma thèse, qui est basée sur les défis relatifs à l'éducation 4.0, je me suis intéressé à un ensemble d'innovations pédagogiques et digitales qui permettraient de mieux exploiter le potentiel du digital et des données d'apprentissage pour fournir un système de recommandations de parcours d'apprentissage face à des profils d'apprenants, d'attentes, de rythmes et de besoins différents. Donc, et le projet Hype 13 m'a servi de cadre d'expérimentation dans le cadre de mes travaux de thèse.
Tout à fait. Et la leçon, elle est très intéressante parce que j'allais te proposer de parler un petit peu du projet. Pourquoi nous nous sommes intéressés à ce projet? En fait, quelque part, pourquoi nous avons participé à la construction du projet? Je me souviens que c'était déjà en 2019, tu avais commencé ta thèse. Et c'était bon, lors du premier confinement que nous nous sommes retrouvés à travailler à distance avec aussi d'autres collègues qui sont pas là avec nous aujourd'hui. Hein. Et pendant cette période, en fait, nous étions conscients que c'était possible finalement, même si les temps étaient courts, de pouvoir commencer à déployer ce que nous faisions déjà en recherche, commencer à le déployer dans le cadre de nos enseignements en cours. Et c'est à cette période-là que nous avons commencé à écrire finalement comment l'utilisation des données, c'est-à-dire des traces d'apprentissage, pourrions nous aider dans ces moments-là où nous avions des étudiants à distance, parfois des étudiants qui étaient à distance dans un autre continent, et la formation synchrone et à distance n'était pas finalement la meilleure option. Donc à l'époque, nous avons commencé à imaginer finalement et un cadre beaucoup plus appliqué de ce que nous faisions en recherche et quelque part imaginer comment nous pourrions modifier les enseignements en cours et comment nous pourrions définir un plan d'action pour pouvoir quelque part avoir des résultats très rapides. Et à ce moment-là, il y a eu l'appel à l'ANR. Et au niveau de notre université, l'UPPA, et en coordination avec d'autres universités, nous nous sommes lancés dans cette aventure, dans laquelle il y avait plusieurs axes, objectifs stratégiques. Donc, il y avait bien sûr l'hybridation, et il y avait pour nous l'élément, les clés, c'était finalement comment nous pourrions explorer les aspects Learning Analytics. Bon. On parle de Learning Analytics, mais et tu es d'accord avec moi, Mamadou, qu'il faudra qu'on puisse partir des définitions et des concepts exacts. Et tu as travaillé pas mal dans ta thèse sur cette partie. Est-ce que tu pourrais nous préciser de nouveau qu'est-ce que c'est une trace d'apprentissage, par exemple, et en quoi comment nous pourrions définir les processus de Learning Analytics?
Tout à fait. Avant d'aborder cette pratique de Learning Analytics, nous avons travaillé sur une définition de ce que c'est une trace d'apprentissage et que nous avions défini dans le cadre de ce projet comme un élément, ou je peux dire comme une empreinte qui permet de fournir des réponses à ces éléments, c'est-à-dire le quoi, qui est l'acteur qui est à l'origine de cette trace, le quoi, c'est-à-dire la nature de l'action qui a été réalisée par cet acteur, quand cette trace a été générée, date, heure, etc. et où, sur quel contenu d'apprentissage, ressources ou bien activités cette action a eu lieu.
Tout à fait. Et Mamadou, c'est très important ce que tu viens de définir. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, nous sommes partis de l'hypothèse que l'utilisation des outils, les outils du type Learning Management System comme Moodle, c'est vraiment finalement la plateforme d'interaction qui va être là tout le temps. Et à partir de cette plateforme, nous allons pouvoir finalement échanger entre l'étudiant et l'enseignant, entre un étudiant et un autre étudiant, entre les enseignants aussi. Donc tout va se passer dans cette plateforme. Donc en fait, ce que tu viens de dire, c'est finalement ces interactions, nous allons pouvoir les représenter dans
Tout à
la
fait.
forme des traces. C'est-à-dire, si je répète ce que tu viens de dire, qui a été à l'origine de la trace et quand cette trace a eu lieu et sur quel objet elle a eu lieu et le type d'action. Est-ce que, par exemple, j'ai ouvert un document ou j'ai répondu à un questionnaire ou j'ai regardé une vidéo, etc. Donc, en fait, le type d'action qui a été effectué. Et alors, maintenant que nous avons stocké des données qui peuvent être quand même assez importantes, tout cet ensemble de données, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire avec?
À partir de ce moment, si toutefois la trace d'apprentissage a été définie et identifié les types de traces qu'il faut connecter, à partir de ce moment, après, on peut commencer la pratique de learning analytics qui pourrait être définie comme la mesure, la collecte et l'analyse des données d'apprentissage pour mieux améliorer et optimiser l'apprentissage et les environnements dans lesquels il se produit en vue de mieux favoriser la réussite de l'apprenant.
Et donc, et quand tu dis mettre en pratique finalement ces processus, et ces processus, on pourrait les définir sur, on va dire, quatre niveaux d'analyse.
Tout
Est-ce
à
que tu
fait.
pourrais nous rappeler ces niveaux?
Effectivement, aussi dans le cadre de l'implémentation de d'une solution sur les learning analytics, on a adopté une approche qui est basée sur l'implémentation des quatre niveaux de méthodologie d'analyse, qui sont l'analyse descriptive, l'analyse diagnostique, l'analyse prédictive et l'analyse prescriptive. L'analyse descriptive, qui est le niveau d'analyse le plus élémentaire, qui est sous forme d'observation et de rapport, par exemple, identifier les tendances à la hausse ou bien à la baisse par rapport à la progression, la performance ou bien voilà, la participation d'un apprenant. Et pour l'analyse diagnostique, sur la base de ces éléments qui sont issus de l'analyse descriptive, par exemple, ça permet de fournir une explication des résultats qui sont issus de l'analyse descriptive. Par exemple, voilà pourquoi un étudiant a eu telle tendance à la baisse ou bien à la hausse par rapport à sa participation, progression, performance.
Donc, ces deux niveaux que tu viens de décrire sont relativement faciles. Nous le verrons plus tard, mais ils vont être faciles à comprendre, moi,
Tout à fait.
peut-être pas forcément faciles à produire comme indicateur, mais en fait, en gros, c'est finalement décrire qu'est-ce qui s'est passé. Hein.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'en apprenant, il va pouvoir voir ce qui s'est passé dans son. Le processus que lui il a vécu. Et un enseignant aussi il va pouvoir voir l'ensemble des étudiants d'une classe et voir comment ça
Tout à
évolue.
fait.
Et le diagnostic, là, ça commence à venir un petit peu plus complexe parce qu'on commence à chercher des explications et peut-être alerter, à identifier la nécessité d'envoyer une alerte.
Oui.
Donc, nous, par exemple, on
Par
avait
exemple,
imaginé
on
un
a
enseignant.
utilisé le modèle sémaphore
Tout à
avec
fait.
des indicateurs colorés, vert, jaune et rouge, en vue d'évaluer le niveau de risque de chaque apprenant pour mettre en place un système d'alerte et d'intervention précoce pour éviter peut-être l'échec d'un étudiant à l'échelle d'un cours.
Voilà. Donc, très bien. Et donc, c'est des choses que nous pouvons faire, nous pouvons imaginer. En fait, c'est des choses qu'on va pouvoir déterminer pendant la formation. Et le fait de pouvoir récupérer tous ces éléments, toutes ces traces, et pouvoir ensuite et calculer ces indicateurs, en
Tout à
fait,
fait.
pour décrire ce qui s'est passé et pouvoir faire un diagnostic. Les sautes d'oliveaux, tu pourrais peut-être préciser un peu plus en détail.
Effectivement, les deux derniers niveaux qui pourraient être considérés comme des niveaux les plus avancés, à savoir l'analyse prédictive qui est basée sur une prédiction de ce qui va se passer dans le futur en fonction des éléments qui sont issus de l'analyse descriptive et de l'analyse diagnostique. Par exemple, prédire à l'échelle d'un cours la réussite ou bien l'échec d'un apprenant.
Et donc, dans ces cas-là, il faut savoir que pour la prédiction, il nous faut souvent avoir un nombre de données assez importantes. C'est-à-dire que c'est des choses que nous pourrions imaginer, pas forcément dans une cohorte d'une année,
Tout à fait.
mais là, nous allons avoir besoin de collecter
Oui.
année après
Tout
année
à fait.
beaucoup de données, pour pouvoir ensuite aller vers la prédiction en utilisant, par exemple, des outils du type data
Tout à
mining,
fait. Des techniques
machine
mathématiques,
learning.
de process mining, voilà, d'algorithmes prédictifs, tout ça. Tout à
Voilà.
fait.
Et les prescriptifs.
Bon, le niveau de prescription, qui est considéré comme le niveau le plus avancé, qui consiste à faire une prescription d'action ou de recommandation qui pourrait être destinée à l'enseignant ou bien à l'apprenant pour améliorer et optimiser l'apprentissage. Voilà.
Et en effet, c'est encore plus complexe parce que ça veut dire que je vais pas seulement avoir des données sur l'apprentissage des étudiants sur plusieurs cohortes, année après année, mais que je devrais aussi avoir la possibilité de, quelque part, tester la efficacité d'avoir, par exemple, utilisé une ressource supplémentaire, je sais pas, un article, une vidéo, un exercice. Et voir jusqu'à quelle mesure l'utilisation de ces ressources ou des rémédiations supplémentaires ont eu un résultat positif.
Tout à fait.
Et si j'arrive à déterminer ça, je vais pouvoir faire des recommandations
Oui.
aux étudiants. Voilà, donc en fait, ça c'était quelque part l'approche générale que nous avons suivie dans les solutions que nous avons développées dans le cadre HypeTrace. Cependant, nous avions deux possibilités de le faire, c'est-à-dire deux possibilités de pouvoir collecter ces données et pouvoir appliquer les différents niveaux des process mining. Il y avait une façon de faire qui consistait simplement à collecter toutes les données possibles d'un cours et faire ce qu'on pouvait faire avec. Et une autre possibilité, c'était plutôt de revoir la conception d'un cours,
Tout à
c'est-à-dire
fait.
si les cours existaient, ou si je devais créer un nouveau cours, essayer quelque part de mettre des sondes, des collectes de données là où c'était important. Et en faisant ça, quelque part, ça nous permettait d'avoir un lien beaucoup plus logique entre les données que j'ai observées. Par exemple, je collecte des données après avoir effectué une activité. Et si je collecte ces données après, par exemple, j'ai fait une activité, j'ai fait un quiz, un examen, j'observe les niveaux finalement d'acquisition d'une connaissance, d'une compréhension d'une connaissance, d'un concept, je vais pouvoir quelque part faire des corrélations entre les ressources que l'étudiant a utilisées et l'évaluation du niveau d'acquisition d'une connaissance. Donc, quelque part, la collecte des données en suivant cette approche va nous permettre de comprendre mieux finalement toutes les données qu'on collecte et la façon dans laquelle les étudiants, mais aussi les enseignants, vont pouvoir s'en servir quand il faut parfois faire évoluer les cours. Donc, c'est exactement la méthode que nous avons suivie dans le cadre des HypeTrace. Et je voulais te demander de décrire un peu plus techniquement, même si on va rester de façon très générale, la plupart d'informations se trouvent sur les sites web des projets, mais si tu pouvais nous décrire techniquement comment cette solution, nous les avons implémentées dans le cadre du projet.
Bon, dans le cadre du projet, on a implémenté une solution qui est basé sur un tableau de bord avec le modèle sémaphore qu'on avait parlé avec des indicateurs vert, jaune, rouge sur la progression, la participation et la performance de chaque apprenant sur la base de l'utilisation des techniques mathématiques avec l'utilisation du standard XAEPI, voilà, pour le format de représentation des traces d'apprentissage avec l'utilisation aussi d'une base de données spécialisée pour la collecte, le stockage et la gestion des traces d'apprentissage, qui est TRAX-LRS, qui est une solution made in France, voilà, qu'on a utilisée comme solution technique pour mettre en œuvre un outil, voilà, de learning analytics qui sont destinés aux universités partenaires dans le cadre du projet HYPRISE.
Tout à fait. Et tu fais bien de le préciser, Mamadou. Et nous avons suivi une approche open source et standard. Ça veut dire que ce que nous avons exploré dans les projets, n'importe quelle université qui utilise par exemple Moodle pourrait finalement déployer cette solution en utilisant les standards que tu as mentionnés, XAPI, qui consiste finalement à avoir une façon normalisée d'extraire des données de Moodle et de les stocker dans une base de données qui va nous permettre de pouvoir ensuite faire de l'analyse. Et cet outil, en fait, cette solution, et nous remercions encore à la communauté autour de TRAX-LRS qui nous a mis à disposition cet outil pour l'explorer dans le cadre du projet. Ces solutions techniques nous ont permis de mettre en place ces deux niveaux d'analyse, le niveau descriptif et diagnostique. Pour les aspects prédictifs et prescriptifs, est-ce que tu pourrais juste encore, avec quelques
Oui.
mots, décrire les solutions techniques?
D'accord, par rapport à ces aspects, nous avons pensé aller beaucoup plus loin à l'aide des technologies de process mining qui nous permettraient de mieux implémenter ce niveau d'analyse prédictive et de prescription sur la base des traces, comme vous avez évoqué, issues de ces environnements d'apprentissage et avec cette définition des traces-là, voir comment on peut, sur la base des informations recueillies qui permet un peu de suivre le processus, de modéliser le processus d'apprentissage de manière globale ou bien une partie du processus et des parcours qui sont suivis par des apprenants, comment à partir de ces informations on peut faire des prédire peut-être sur la réussite d'un apprenant à l'échelle d'un cours. Bien évidemment, si on a plusieurs cours, on peut le faire à l'échelle d'un programme de formation. Sur la base de ces informations, comment on peut proposer, faire une prescription de parcours optimale pour l'apprenant ou bien faire une recommandation de contenu d'apprentissage. Du côté aussi de l'enseignant, sur la base de ces informations, il peut évaluer en fonction des actions et les conditions d'exécution de ces actions qui sont issues de ces apprenants sur ce contenu d'apprentissage, l'enseignant pourra aussi évaluer la qualité d'une ressource pour mieux peut-être la refaire ou bien l'adapter par rapport aux préférences ou bien au style d'apprentissage des apprenants.
Donc, pour finaliser, peut-être Mamadou, nous pourrions conclure sur ce qui va venir après. Donc, dans le cadre du Hype 13, je voudrais, par exemple, te demander de dire deux mots sur la formation autoportée, l'ESPOC, qui est disponible et qui peut être utilisée par les personnes qui sont intéressées pour quelque part comprendre ce que nous avons fait dans les projets. Si tu peux dire deux mots sur
Oui,
l'ESPOC.
deux mots, c'est de parler que dans le cadre du livrable L6, voilà, travaille sur la conception et du développement d'une formation hybride avec pour fournir une sorte d'introduction à la pratique des learning analytics aux enseignants des 12 universités qui font partie du consortium HYPE13. Donc, c'était une formation avec pratiquement une bonne partie à distance. Donc, derrière, il fallait avoir un dispositif de suivi par rapport à l'évolution de ces participants qui sont des enseignants.
En effet, donc l'ESPOC, c'est finalement une formation sur environ 4 heures, dans laquelle tous les concepts que nous venons de décrire sont expliqués. Il y a des ressources aussi complémentaires. Et comme tu l'as dit, en fait, les SPOC ont été faits en utilisant le learning analytics. Ça veut dire que les apprenants, par exemple un enseignant qui est intéressé, il va pouvoir donc aller beaucoup plus loin dans ses concepts, dans les méthodes, et au même moment, il va jouer le rôle d'un étudiant, ça veut dire qu'il
Tout
va voir son dashboard et peut-être son sémaphore, s'il y a un retard sur une activité ou autre. Et donc, et vraiment là, juste pour conclure, donc, et juste pour dire que, et là je l'ai dit pour tous les deux, parce que nous continuons à développer
à
les
fait.
activités dans ce domaine, hein, de l'éducation 4.0, nous allons donc continuer après les projets pour travailler sur finalement les quatre niveaux, hein, cet aspect recommandation. Donc, nous travaillons déjà sur la suite, comment nous pouvons finalement commencer à introduire la collecte des données sur finalement l'utilisation des ressources de rémédiation pour vraiment construire une solution qui prend en compte les quatre niveaux, donc les niveaux de recommandation. Bon, mais je pense que nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Donc, merci vraiment
Merci
pour.
à vous aussi, Ernesto.
Très bien. Et bon, mais pour les collègues qui sont intéressés, donc toute l'information est disponible sur le site web du projet Hype13. Et si vous êtes intéressé pour suivre la formation de Spock, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci.
Merci à vous.